France Inter, le 7-9.
7h47, Léa Salamé, vous recevez ce matin trois femmes.
Et oui, il méritait bien au moins trois femmes pour lui rendre hommage ce matin. Bonjour à Inès de la Fressanche, Anna Mouglalis et Mademoiselle Agnès. Bonjour à toutes les trois. Merci d'être avec nous ce matin pour évoquer un homme que vous avez aimé follement, avec qui vous avez travaillé, avec qui vous vous êtes parfois disputé, avec qui vous avez beaucoup ri. Inès de la Fressanche, vous avez été sa première grande égérie dont il disait que vous étiez la femme idéale. Il vous avait choisi pour être la star de son défilé, de son premier défilé Chanel dans les années 80. Qu'est-ce que ça fait de se réveiller ce matin dans un monde sans Kaiser Karl, sans Karl Lagerfeld ?
Oui, effectivement, c'est difficile à imaginer parce que justement, Karl, c'était le styliste, le couturier qui avait eu une plus grande longévité dans la mode. C'était très exceptionnel, un couturier qui travaillait depuis 60 ans. Il n'y a aucun exemple, ni au XXe siècle, ni au XXIe siècle.
Anna Mouglalis, vous êtes comédienne et égérie Chanel depuis 2002. Vous avez incarné Coco Chanel au cinéma. Karl Lagerfeld disait de vous, elle est divine, pas conventionnelle, plus jolie que les autres, avec la voix de Delphine Seyrig et l'allure d'Ava Gardner, ce qui est pas mal. Il vous a appris, dites-vous, que la question n'est pas d'être belle ou moche, mais d'être incarnée.
Oui, c'est quelqu'un qui choisissait systématiquement les images les plus singulières qu'il prenait de moi. Donc c'est un cadeau immense, parce qu'on a toujours l'impression que cette histoire de l'image est une sorte d'arnaque. Et avec Karl, voilà, il aimait éventuellement l'angle dans lequel j'étais un peu étrange. Donc ça m'a permis, même par rapport au cinéma, de ne pas chercher à être autrement. Et puis Karl c'est l'éternel. Moi je me réveille ce matin, je le porterai toujours. Il avait comme ça et un côté complètement hiératique, mais en même temps extrêmement drôle. Ça a été pour moi l'homme de toutes les surprises, parce qu'au moment où il m'invitait à faire une séance photo, j'entrais dans le milieu de la mode, je pensais trouver ce qu'il y avait de plus superficiel au monde, et je tombe sur Karl Lagerfeld. C'était autre pour une séance photo, il m'expliquait une position, et puis pour me la faire mieux sentir, il envoyait quelqu'un chercher des livres d'art. Même une fois, il a envoyé quelqu'un chercher une sculpture antique. C'était complètement fou. On a tout arrêté pendant 2h30 pour qu'il aille chercher cette sculpture, pour me montrer la sensation de la position.
Voilà, comment il fallait être.
La démesure.
Mademoiselle Agnès, vous êtes la journaliste de mode pour toute une génération, la mienne. Vous avez grandi avec Karl Lagerfeld, vous avez tourné un documentaire sur les coulisses de Chanel il y a 20 ans. On le compare souvent à son frère ennemi Yves Saint Laurent, l'autre grand génie de la mode. Quelle trace, quelle empreinte il laissera Karl Lagerfeld dans la mode? Qu'est-ce qu'on dira de lui dans 50 ou 100 ans?
C'est lui en fait, je crois que voilà, il le disait, il était un Charlie Chaplin au quotidien, sa propre marionnette, et c'est cette silhouette plus au-delà de sa mode, parce qu'il a été tellement prolifique, il a fait tellement de choses en fait, et j'avais pas un rapport de journaliste avec Karl. J'étais un petit peu celle qu'on envoyait quand une journaliste était un peu trop longue, ou il en avait un peu assez, parce que cet homme a fait des 3 heures d'interview debout, post-défilé dans toutes les langues, enfin ça n'existe plus, hein. Et je venenais toujours un petit peu, Madame Agnès, et je venais un petit peu le sauver. Et en fait, j'avais beaucoup de mal à faire mon job avec lui parce que il voulait parler de tout avec moi, sauf de mode. Donc, comme l'idée de lui demander quelle était l'inspiration de son défilé m'intéressait de toute façon pas trop, on virait sur nos choupettes.
En fait, il s'en foutait un peu de la mode, non? C'était pas ce qui intéressait le plus, soyez honnête, non?
Ou s'en foutre, je dirais pas ça, parce qu'il avait, non mais de toute façon, voilà, une telle curiosité, puis une telle imagination, une telle précision. Mais oui, les anecdotes, moi j'ai des éclats de joie en fait en mémoire avec Karl. Et c'était, j'avais cette complicité-là avec lui, et il préférait toujours une anecdote, vraie ou fausse d'ailleurs. Hein. Une femme du Moyen-Orient, qui venait un mois par an à Paris, dépensait 500 000 euros par jour chez Chanel. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais avec ce voile magnifique en dentelle et surtout ses mains sublimes. Enfin, tout était toujours nourri de détails, de précisions.
Et de dessins, parce que c'est quelqu'un qui... Enfin, on imagine Karl vivant comme pendant l'Ancien Régime, mais Karl, il dormait avec la tête dans les solvants et les pigments. C'était vraiment un artisan.
Moi, je pense qu'il dessinait tout le temps.
Tout le temps, tout le temps. Et il dormait très très peu. Et il était toujours à son art. Alors il disait que c'était un art appliqué. Il avait cette humilité de dire non, je ne suis pas un artiste, je fais un art appliqué. La mode, de toute façon, passe, mais il la réinventait tout le temps. Cette exigence, je pense que elle est très très rare. Quelqu'un qui a consacré sa vie à ce point et ce mystère aussi.
Exigence et mystère, Inès de la Fraisange.
Tout ça est très 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 vrai, mais c'était pas le bagne. Hein. Détestait justement l'image de styliste ou couturier qui crée dans la souffrance. Tout était. Il voulait absolument une image de légèreté, de joie de vivre et de facilité. Je crois que c'est quelqu'un qui avait beaucoup travaillé, qui connaissait parfaitement son métier, et ça pouvait donner l'illusion, comme ça, de dilettantisme, mais c'était le contraire de ça. Et finalement, quand il disait qu'il avait une vie de curé, mais totalement monacale, les gens riaient, souriaient, ne voulaient pas y croire, mais c'était vrai, quoi. Il faisait que travailler, il partait en voyage.
Il était seul, Inès de la Fraisange, c'est un homme seul, c'est un solitaire.
Il était totalement solitaire et seul, mais c'était un choix. Et c'est ce qu'il voulait, c'est ce qu'il a voulu et c'est ce qu'il a organisé, en fait.
Mademoiselle
Agnès. Oui, il disait on ne peut pas lire avec du monde, quoi. Enfin, il avait besoin pour créer, pour travailler, d'être seul, mais c'était pour être mieux avec nous, parce qu'après, il était très, très, très entouré. Quand vous arriviez au studio pour une accessoirisation, une fourmilière de femmes, d'hommes autour de lui, alors on l'attendait des heures, évidemment, il y avait ses retards légendaires, mais
c'était une lame quand il ne vous aimait pas.
Oui.
Il pouvait tuer quelqu'un d'un seul mot à la manière d'un Saint-Simon, et quand il vous aimait, ce qui est le cas de vous trois, quand il vous aimait, comment ça se passait? C'était un homme comment? Généreux, attentif, possessif? Il était comment?
Avec moi, extrêmement généreux. Il n'y a pas eu d'histoire de possessivité. On s'est, vous voyez, jusqu'au bout. Il y avait cette distance respectueuse qui est très rare aussi. Mais non, une générosité folle même. Mais une générosité de son temps, parce qu'on parle des retards. Mais les retards étaient à la mesure du temps qu'il accordait. Il ne regardait jamais l'heure.
Et il disait, ça ne m'intéresse pas d'être une réalité dans la vie des gens, je veux être comme une apparition. Qu'est-ce qu'il était dans vos vies ?
Une apparition et une disparition. Quand c'est fini, c'est fini. Mais moi, j'avais un rapport assez tactile, étonnamment, avec lui. Il nous prenait, quand on venait s'asseoir à côté de lui, avec ses mitaines, et il nous prenait les mains très chaleureusement. Je garde ce geste.
C'était un homme du 18e et en même temps un homme de son temps. Il était très à l'aise dans le 21e siècle, très plastique, il s'adaptait à tout. Il détestait la nostalgie, il sentait l'air du temps comme personne. Est-ce que c'est ça aussi, Inès de la Fraisange, son génie, c'est de sentir l'époque comme personne?
Ouais, je crois que c'était quelqu'un qui était surinformé et qui regardait tous les journaux, qui achetait, recevait beaucoup de livres. Mais je suis un peu perplexe là depuis hier finalement, où on parle partout de Lagerfeld. Alors déjà, je suis un peu gênée parce que lui, tout ce qu'il détestait, c'était les hommages, et il trouvait que la mode était faite pour être portée, pour donner le moral aux gens, et il détestait l'idée que la mode devait être dans un musée, et il aimait pas qu'on s'apitoie finalement. C'était quelqu'un d'archipudique. Hein.
Oui.
Et puis aussi, je pense à toutes ces personnes qui entendent justement tous ces témoignages sur Karl, là, et à notre époque, avec tout ce qu'on vit, je me dis toute cette frivolité, cette légèreté, finalement, ça doit choquer les gens. Et alors je me dis qu'il faut rappeler que c'est lui qui a relancé cette immense maison de couture et de luxe, et que ça génère énormément d'emplois, ça participe au rayonnement de la France. Et toutes les maisons de couture en France ont été finalement, ont fait à l'instar de Chanel un peu la même chose et ont essayé de reproduire ce succès de Chanel.
Oui.
Et donc, c'est quand même Karl qui, dans les années 80, a relancé tout ça.
Et vous avez raison, d'une certaine manière, il était aussi le contraire de la frivolité, et c'est aussi ce qu'il était et ce qu'il laissera. Merci à toutes les trois d'avoir été là ce matin. D'un mot, vous deux?
Non, il vivait dans le présent, en fait.
C'est ça, il était terriblement vivant, et sa curiosité, la façon dont il s'intéressait à tous les arts, aux personnes, et sa tendresse, c'était une ode à la vie, quand même.
Merci à toutes les trois d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Karl Lagerfeld. Et belle journée à vous trois.
Merci.
Merci Léa et à tout à l'heure.